Chapitre 5. Nicole Le Guay, maîtresse et chambrière. Gilbert avait passé tout le temps que dura l'interrogatoire de Balsamo dans des angoisses inexprimables. Tapis sous la cage de l'escalier parce qu'il n'osait plus monter jusqu'à la porte pour écouter ce qui se disait dans la chambre rouge, il avait fini par entrer dans un désespoir dont un éclat, grâce aux élans d'un caractère comme celui de Gilbert, devait sans doute faire le dénouement. Ce désespoir s'augmentait du sentiment de sa faiblesse et de son infériorité. Balsamo n'était qu'un homme, car Gilbert, esprit fort, philosophe en herbe, croyait peu aux sorciers. Mais cet homme était fort, Gilbert était faible, cet homme était brave, Gilbert ne l'était pas encore. 20 fois, Gilbert se souleva pour remonter l'escalier, avec l'intention, le cas échéant, de tenir tête au baron. 20 fois, ses jambes tremblantes fléchirent sous lui et il retomba sur ses genoux. Une idée lui vint alors, c'était d'aller chercher une échelle dont l'abri, qui était tout à la fois cuisinier, valet de chambre et jardinier, se servait pour palisser les jasmins et les chèvrefeuilles de la muraille. En l'appliquant contre la galerie de l'escalier, et parvenu là, il ne perdrait pas un des bruits révélateurs qu'il désirait si ardemment surprendre. Il gagna donc l'antichambre, puis la cour, et courut à l'endroit où il savait trouver l'échelle couchée au pied de la muraille. Mais comme il se baissait pour la ramasser, il lui sembla entendre quelques froissements du côté de la maison. Il se retourna. Alors son œil dilaté dans l'obscurité crut voir passer à travers le cadre noir de la porte ouverte une forme humaine, mais si rapide, si muette, qu'elle semblait plutôt appartenir à un spectre qu'à un être vivant. Il laissa retomber l'échelle et s'avança, le cœur palpitant, vers le château. Certaines imaginations sont nécessairement superstitieuses. Ce sont d'ordinaire les plus riches et les plus exaltées. Elles admettent moins volontiers la raison que la fable. Elles trouvent le naturel trop vulgaire, entraînées qu'elles sont, par leurs instincts, vers l'impossible ou tout au moins vers l'idéalité. C'est pour cela qu'elle raffole d'un beau bois sombre, parce que les voûtes ténébreuses doivent être peuplées de fantômes ou de génies. Les anciens, qui furent de si grands poètes, rêvaient de ces choses-là en plein jour. Seulement, comme leur soleil à eux, foyer de lumière ardente dont nous n'avons pour ainsi dire que le reflet, comme leur soleil, disons-nous, bannit l'idée des larves des fantômes, ils avaient imaginé les riantes dryades ou les oréades légères. Gilbert, enfant d'un pays nuageux où les idées sont plus lugubres, crut voir passer une vision. Cette fois, malgré son incrédulité, ce que lui avait dit en fouillant la femme de Balsamo lui revint à l'esprit. Le sorcier ne pouvait-il pas avoir évoqué quelque fantôme, lui qui avait le pouvoir d'entraîner au mal l'ange même de la pureté? Cependant, Gilbert avait toujours un second mouvement, pire que le premier, celui de la réflexion. Il appela à son secours tous les arguments des esprits forts contre les spectres, et l'article revenant du dictionnaire philosophique lui rendit un certain courage en lui donnant une peur plus grande mais plus fondée. S'il avait effectivement vu quelqu'un, ce devait être une personne bien vivante et surtout bien intéressée à venir ainsi guetter. Sa frayeur lui indiqua M. de Tavernet, sa conscience lui souffla un autre nom. Il regarda au deuxième étage du pavillon, nous l'avons dit, la lumière de Nicole était éteinte et ses vitres ne trahissaient aucune lumière. Pas un souffle, pas un bruit, pas une lueur par toute la maison, excepté dans la chambre de l'étranger. Il regarda, il écouta, puis, ne voyant plus rien, n'entendant plus rien, il reprit son échelle, bien convaincu cette fois qu'il avait eu les yeux troublés comme un homme dont le cœur bat trop vite et que cette vision était une intermittence de la faculté voyante, comme on peut dire techniquement, plutôt qu'un résultat de l'exercice de ses facultés. Comme il venait de placer son échelle et qu'il posait le pied sur le premier échelon, la porte de Balsamo s'ouvrit et se referma, laissant passer André, qui descendait sans lumière et sans bruit, comme si une puissance surnaturelle la guidait et la soutenait. André arriva de la sorte sur le palier de l'escalier, passa près de Gilbert, qu'elle effleura de sa robe dans l'ombre où il était plongé, et continua son chemin. Monsieur de Tavernay endormi, l'abri couché, Nicole dans l'autre pavillon, la porte de Balsamo fermée, garantissait le jeune homme contre toute surprise. Il fit sur lui-même un effort violent et suivit André en boitant son pas dans le sien. André traversa l'antichambre et entra dans le salon. Gilbert la suivait, le cœur déchiré. Cependant, quoique la porte fût restée ouverte, il s'arrêta. André alla s'asseoir sur le tabouret placé près du clavecin sur lequel la bougie brûlait toujours. Gilbert se déchirait la poitrine avec ses ongles crispés. C'était à cette même place qu'une demi-heure auparavant, il avait baisé la robe et la main de cette femme sans qu'elle se fâchât. C'était là qu'il avait espéré, qu'il avait été heureux. Sans doute l'indulgence de la jeune fille venait d'une de ces corruptions profondes telles que Gilbert en avait trouvé dans les romans qui faisaient le fond de la bibliothèque du baron ou d'une de ces trahisons des sens comme il en avait vu analysées dans certains traités physiologiques. « Eh bien, murmurait-il, flottant de l'une à l'autre de ses idées, s'il en est ainsi, moi, comme les autres, je bénéficierai de cette corruption ou je mettrai à profit cette surprise des sens. Et puisque l'ange jette au vent sa robe de candeur, à moi quelques lambeaux de sa chasteté. » La résolution de Gilbert était prise, cette fois, il s'élança vers le salon. Mais, comme il allait en franchir le seuil, une main sortit de l'ombre et le saisit énergiquement par le bras. Gilbert se retourna épouvanté, et il lui sembla que son cœur se dérangeait dans sa poitrine. « Ah, je t'y prends, cette fois impudent !» lui glissa dans l'oreille une voix irritée. « Essaye encore de nier que tu aies rendez-vous avec elle, essaie de nier que tu l'aimes !» Gilbert n'eut même pas la force de secouer son bras pour l'arracher à l'étreinte qui le retenait. Cependant, l'étreinte n'était pas telle qu'il ne pût la rompre. L'étau était tout simplement le poignet d'une jeune fille. C'était enfin Nicole Leguet qui retenait Gilbert prisonnier. « Voyons, que voulez-vous encore ? » demanda-t-il tout bas et avec impatience. « Ah, tu veux que je parle tout ou à ce qu'il paraît ?» articula Nicole avec toute la plénitude de sa voix. « Non, non, je veux que tu te taises, au contraire !» répondit Gilbert, les dents serrées et entraînant Nicole dans l'antichambre. « Eh bien, suis-moi, alors !» C'était ce que demandait Gilbert, car, en suivant Nicole, il s'éloignait d'André. « Soit, je vous suis, » dit-il. Il marcha effectivement derrière Nicole, laquelle l'emmena dans le parterre, en tirant la porte derrière elle. « Mais, » dit Gilbert, « mademoiselle va rentrer dans sa chambre, elle va vous appeler pour l'aider à se mettre au lit, et vous ne serez point là !» « Oh, si vous croyez que c'est cela qui m'occupe en ce moment-ci, en vérité, vous vous trompez fort. Que m'importe qu'elle m'appelle ou qu'elle ne m'appelle point, il faut que je vous parle. Vous pourriez, Nicole, remettre à demain ce que vous avez à me dire. Mademoiselle est sévère, vous le savez. Ah oui, je lui conseille d'être sévère, et avec moi surtout. Nicole, demain, je vous promets. Tu promets, elles sont belles tes promesses, et l'on peut compter dessus. » « Ne m'avais-tu pas promis de m'attendre aujourd'hui à 6 heures du côté de Maison Rouge ? Où étais-tu à cette heure-là ? Du côté opposé, puisque c'est toi qui as ramené le voyageur. Tes promesses, j'en fais autant de cas maintenant que celles du directeur du couvent des Annonciades, lequel avait fait serment de garder le secret de la confession et s'en allait rapporter tous nos péchés à la supérieure. » Nicole songeait que l'on vous renverra si l'on aperçoit... « Et vous, on ne vous renverra pas, vous, l'amoureux de mademoiselle. Non, monsieur le baron se gênera pour cela. »« Moi, dit Gilbert, essayant de se défendre, il n'y a aucun motif pour qu'on me renvoie. »« Vraiment, vous aurait-il autorisé à faire la cour à sa fille ? Je ne le savais pas si philosophe que cela. » Gilbert pouvait d'un mot prouver à Nicole que, s'il était coupable, il n'y avait pas moins de complicité de la part d'André. Il n'avait qu'à lui raconter ce qu'il avait vu, et tout incroyable qu'était la chose, Nicole, grâce à cette bonne opinion que les femmes ont les unes des autres, l'eût sans doute crue. Mais une idée plus profonde arrêta le jeune homme au moment de la révélation. Le secret d'André était de ceux qui enrichissent un homme, soit que cet homme désire les trésors de l'amour, soit qu'il désire d'autres trésors plus matériels et plus positifs. Les trésors que désirait Gilbert étaient des trésors d'amour. Il calcula que la colère de Nicole était moins dangereuse que n'était désirable la possession d'André. Il fit à l'instant même son choix et garda le silence sur la singulière aventure de la nuit. Voyons, puisque vous le voulez absolument, expliquons-nous, dit-il. Oh, ce sera vite fait, s'écria Nicole, dont le caractère, absolument contraire à celui de Gilbert, ne la laissait maîtresse d'aucune de ses sensations. Mais tu as raison, nous sommes mal dans ce parterre. Allons dans ma chambre. Dans votre chambre, s'écria Gilbert effrayé. Impossible. Pourquoi cela? Mais c'est nous exposer à être surpris. « Allons donc, répliqua Nicole avec un sourire de dédain, qui nous surprendrait? Mademoiselle, en effet, elle doit être jalouse de ce beau monsieur. Malheureusement pour elle, les gens dont on sait le secret ne sont point à craindre. Ah, mademoiselle André, jalouse de Nicole, je n'aurais jamais cru à cet honneur-là. » Et un rire forcé, terrible comme le grondement de la tempête, vint effrayer Gilbert beaucoup plus que ne lui fait une invective ou une menace. « Ce n'est point de mademoiselle que j'ai peur, Nicole, j'ai peur de vous. »« Ah oui, c'est vrai, vous m'avez toujours dit que là où il n'y avait pas de scandale, il n'y avait pas de mal. Les philosophes sont jésuites quelquefois. » Du reste, le directeur des Annonciades disait cela comme vous et me l'avait dit avant vous. C'est pour cela que vous donnez vos rendez-vous à mademoiselle pendant la nuit. Allons, allons, assez de mauvaises raisons comme cela. Venez dans ma chambre, je le veux. « Nicole, dit Gilbert en grinçant les dents. « Eh bien, dit la jeune fille, après !»« Prends garde !» Il fit un geste menaçant. « Oh, je n'ai pas peur, vous m'avez déjà battu une fois, mais parce que vous étiez jaloux, vous m'aimiez dans ce temps-là. C'était 8 jours après notre beau jour de miel, et je me suis laissé battre, mais je ne me laisserai pas faire aujourd'hui. Ah, non, 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 car vous ne m'aimez plus, et c'est moi qui suis jalouse !»« Et que feras-tu ? » dit Gilbert en saisissant le poignet de la jeune fille. « Oh, je crierai tant que mademoiselle vous demandera de quel droit vous donnez à Nicole ce que vous ne devez qu'à elle en ce moment. Ah, lâchez-moi donc, je vous le conseille. » Gilbert lâcha la main de Nicole. Puis, prenant son échelle et la traînant avec précaution, il alla l'appliquer en dehors du pavillon, de façon qu'elle atteignît la fenêtre de Nicole. « Voilà ce que c'est que la destinée, dit celle-ci. L'échelle qui devait probablement servir à escalader la chambre de mademoiselle servira tout bonnement à descendre de la mansarde de Nicole Leguet. Ah, c'est flatteur pour moi. » Nicole se sentait la plus forte. En conséquence, elle se hâtait de triompher avec cette précipitation des femmes qui, à moins que d'être réellement supérieures dans le bien ou dans le mal, payent toujours cher cette première victoire trop vite proclamée. Gilbert avait senti la fausseté de sa position. En conséquence, il suivait la jeune fille en rassemblant toutes ses facultés pour la lutte qu'il pressentait. Et d'abord, en homme de précaution, il s'assura de 2 choses. La première, en passant devant la fenêtre, c'est que mademoiselle de Tavernet était toujours au salon. La seconde, en arrivant chez Nicole, c'est qu'on pouvait, sans trop risquer de se casser le cou, atteindre le premier échelon et de là se laisser glisser jusqu'à terre. Comme simplicité, la chambre de Nicole ne différait pas du reste de l'habitation. C'était un grenier dont la muraille avait disparu sous un papier gris à dessins verts. Un lit de sangle et un grand géranium placé près de la lucarne meublaient la chambre. En outre, André avait prêté à Nicole un énorme carton qui lui servait à la fois de commode et de table. Nicole s'assit sur le bord du lit et Gilbert sur l'angle du carton. Nicole s'était calmée en montant l'escalier. Maîtresse d'elle-même, elle se sentait forte. Gilbert, au contraire, tout tremblant encore des secousses antérieures, ne pouvait parvenir à reprendre son sang-froid et sentait la colère monter en lui à mesure que, par la force de sa volonté, elle semblait s'éteindre chez la jeune fille. Il se fit un moment de silence pendant lequel Nicole couvrit Gilbert d'un œil ardent et irrité. « Ainsi, dit-elle, vous aimez mademoiselle et vous me trompez. »« Qui vous dit que j'aime mademoiselle ?» fit Gilbert. « Ben, dame, vous avez des rendez-vous avec elle. »« Qui vous a dit que c'est avec elle que j'ai eu un rendez-vous ?»« À qui donc aviez-vous affaire dans le pavillon, aux sorciers ?»« Peut-être, vous savez que j'ai de l'ambition, dites de l'envie. » »« C'est le même mot, interprété en bonne et en mauvaise part. »« Oh, ne faisons pas de discussion de choses, une discussion de mots. Vous ne m'aimez plus, c'est vrai ?»« Suffrait, je vous aime toujours. » « Alors, pourquoi vous éloignez-vous de moi ?»« Parce que, lorsque vous me rencontrez, vous me cherchez querelle. »« Justement, je vous cherche querelle parce que nous ne faisons plus que nous rencontrer. »« J'ai toujours été sauvage et cherchant la solitude, vous le savez. »« Oui, et l'on monte chez la solitude avec une échelle à pardon, je ne savais pas cela. Gilbert était battu sur ce premier point. Allons, allons, soyons francs, si cela vous est possible, Gilbert, et avouez que vous ne m'aimez plus, ou que vous nous aimez à deux. Eh bien, si cela était, fit Gilbert, que diriez-vous? Je dirais que c'est une monstruosité. Non pas, mais une erreur. De votre cœur? De notre société. Il y a des pays où chaque homme, vous le savez, a jusqu'à 7 ou 8 femmes. Oh, ce ne sont pas des chrétiens, répondit Nicole avec impatience. Ce sont des philosophes, répondit superbement Gilbert. Oh, monsieur le philosophe, ainsi vous trouveriez bon que je fisse comme vous, que je prisse un second amant? Je ne voudrais pas être injuste et tyrannique envers vous. Je ne voudrais pas comprimer les mouvements de votre cœur. La sainte liberté consiste surtout à respecter le libre arbitre. Changez d'amour, Nicole, je ne saurais vous contraindre à une fidélité qui, selon moi, n'est pas dans la nature. Ah, s'écria Nicole, vous voyez bien que vous ne m'aimez pas. La discussion était le fort de Gilbert, non pas que son esprit fût précisément logique, mais il était paradoxal. Puis, si peu qu'il sût, il en savait toujours plus que Nicole. Nicole n'avait lu que ce qui lui paraissait amusant. Gilbert avait lu non seulement ce qui lui paraissait amusant, mais encore ce qui lui avait paru utile. Gilbert commençait donc, en discutant, à regagner le sang-froid que perdait Nicole. Avez-vous de la mémoire, monsieur le philosophe? Demanda Nicole avec un sourire ironique. Quelquefois, répondit Gilbert. Vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit lorsque j'arrivais des Annonciades avec mademoiselle il y a 5 mois? Non, mais rappelez-le-moi. Vous m'avez dit, je suis pauvre. C'était le jour où nous lisions ensemble Tanzai sous une des voûtes du vieux château écroulé. Bien, continuez. Vous trembliez très fort ce jour-là. C'est possible, je suis d'un naturel timide, mais je fais ce que je puis pour me corriger de ce défaut-là comme des autres. De sorte que lorsque vous serez corrigé de tous vos défauts, dit en riant Nicole, vous serez parfait. Je serai fort du moins, car c'est la sagesse qui fait la force. Où avez-vous lu cela, s'il vous plaît? Oh, que vous importe, revenez à ce que je vous disais sous la voûte. Nicole sentait bien qu'elle perdait de plus en plus son terrain. Eh bien, vous me disiez, je suis pauvre, Nicole, personne ne m'aime, on ne sait pas que j'ai quelque chose là, et vous frappiez votre cœur. Vous vous trompiez, Nicole, si je frappais quelque chose en vous disant cela, ce ne devait pas être mon cœur, mais ma tête. Le cœur n'est qu'une pompe foulante destinée à pousser le sang aux extrémités. Lisez le dictionnaire philosophique, article cœur. Et Gilbert se redressa avec suffisance. Humilié devant Balsamo, il se faisait superbe devant Nicole. Vous avez raison, Gilbert, et ce devait être effectivement votre tête que vous frappiez. Vous disiez donc en frappant votre tête, on me traite ici comme un chien de basse-cour, et encore, Mahon est plus heureux que moi. Je vous répondis alors qu'on avait tort de ne pas vous aimer, et que si vous aviez été mon frère, je vous eusse aimé, moi. Il me semble que c'est avec mon cœur et non avec ma tête que je vous ai répondu cela, mais peut-être me trompais-je, je n'ai pas lu le dictionnaire philosophique. Vous avez eu tort, Nicole. Vous me prîtes alors dans vos bras. Vous êtes orpheline, Nicole, me dites-vous. Moi aussi, je suis orphelin. Notre misère et notre abjection nous font plus que frères. Aimons-nous donc, Nicole, comme si nous l'étions vraiment. D'ailleurs, si nous l'étions réellement, la société nous défendrait de nous aimer comme je veux que tu m'aimes. Alors, vous m'avez embrassé. C'est possible. Vous pensiez donc ce que vous disiez? Eh, sans doute, on pense presque toujours ce que l'on dit dans le moment où on le dit. De sorte qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 5 mois de plus, j'ai appris des choses que j'ignorais, j'en devine que je ne connais pas encore, aujourd'hui je pense autrement. Vous êtes donc faux, menteur, hypocrite, s'écria Nicole en s'emportant. Pas plus que ne l'est un voyageur à qui on demande au fond d'une vallée ce qu'il pense du paysage et à qui on fait la même question lorsqu'il est parvenu au haut de la montagne qui lui fermait son horizon. J'embrasse un plus grand paysage, voilà tout. De sorte que vous ne m'épouserez pas. Je ne vous ai jamais dit que je vous épouserais, répondit Gilbert avec mépris. Eh bien, s'écria la jeune fille exaspérée, il me semble que Nicole Le Guay vaut bien Sébastien Gilbert. Tous les hommes se valent, dit Gilbert, seulement la nature ou l'éducation ont mis en eux des valeurs diverses et des facultés différentes. Selon que ces valeurs ou ces facultés se développent plus ou moins, ils s'éloignent les uns des autres. De sorte qu'ayant des facultés et des valeurs plus développées que les miennes, vous vous éloignez de moi. Naturellement, vous ne raisonnez pas encore, Nicole, mais vous comprenez déjà. Ah oui, oui, s'écria Nicole exaspéré. Ah oui, je comprends. Que comprenez-vous? Je comprends que vous êtes un malhonnête homme. C'est possible, beaucoup naissent avec des instincts mauvais, mais la volonté est là pour les corriger. Monsieur Rousseau, lui aussi, était né avec des instincts mauvais. Il s'est corrigé, cependant, je ferai comme monsieur Rousseau. Oh mon Dieu, dit Nicole, comment ai-je pu aimer un pareil homme? Aussi, vous ne m'avez pas aimé, Nicole, reprit froidement Gilbert. Je vous ai plu, voilà tout. Vous sortiez de Nancy, où vous n'aviez vu que des séminaristes qui vous faisaient rire, ou des militaires qui vous faisaient peur. Nous étions jeunes, tous les deux, innocents, tous les deux, désireux, tous les deux, de cesser de l'être. La nature parlait en nous avec sa voix irrésistible. Il y a quelque chose qui s'allume dans nos veines alors que nous désirons, une inquiétude dont on cherche la guérison dans les livres et qui nous rend de plus inquiets encore. C'est en lisant ensemble un de ces livres, vous vous rappelez, Nicole, non pas que vous avez cédé, car je ne vous demandais rien, car vous ne me refusiez rien, mais que nous avons trouvé le mot d'un secret inconnu. Pendant un mois ou deux, ce mot a été « bonheur ». Pendant un mois ou deux, nous avons vécu au lieu de végéter. Cela veut-il dire, parce que nous avons été 2 mois heureux l'un par l'autre, que nous devions être l'un par l'autre éternellement malheureux? Allons donc, Nicole, si l'on prenait un pareil engagement, en donnant et en recevant le bonheur, on renoncerait à son libre arbitre, et ce serait absurde. Est-ce de la philosophie que vous me faites là? Dit Nicole. Je le crois, répondit Gilbert. Alors il n'y a donc rien de sacré pour les philosophes? Si fait, il y a la raison. De sorte que moi qui voulais rester honnête fille, ah pardon, mais il est déjà trop tard pour cela. Nicole pâlit et rougit comme si une roue faisait faire à chaque goutte de son sang le tour de son corps. Honnête quant à vous, dit-elle, on est toujours honnête femme, avez-vous dit pour me consoler quand on est fidèle à celui que le cœur a choisi. Vous ne vous rappelez pas cette théorie sur les mariages? J'ai dit les unions, Nicole, attendu que je ne me marierai jamais. Vous ne vous marierez jamais? Non, je veux être un savant et un philosophe. Or, la science ordonne l'isolement de l'esprit et la philosophie celle du corps. Monsieur Gilbert, dit Nicole, vous êtes un misérable et je crois que je vaux encore mieux que vous. Résumons, dit Gilbert en se levant, car nous perdons notre temps, vous à me dire des injures, moi à les écouter. Vous m'avez aimé parce que cela vous a plu, n'est-ce pas? Sans doute. Eh bien, ce n'est pas une raison pour me rendre malheureux, moi, parce que vous avez fait, vous, une chose qui vous a plu. Le sot, dit Nicole, qui me croit perverti et qui fait semblant de ne pas me craindre. Vous craindre, vous, Nicole, allons donc, que pouvez-vous contre moi? La jalousie vous égare. La jalousie, moi jalouse, dit avec un rire fiévreux la jeune fille. Ah, vous vous trompez fort si vous me croyez jalouse. Et de quoi serais-je jalouse, je vous prie? Est-il dans tout le canton plus jolie fille que moi? Si j'avais les mains blanches de mademoiselle, et je les aurais le jour où je ne travaillerais plus, ne vaudrais-je pas, mademoiselle, mes cheveux? Regardez mes cheveux. Et la jeune fille dénoua le ruban qui le retenait. Mes cheveux peuvent m'envelopper des pieds à la tête comme un manteau. Je suis grande, je suis bien faite. Et Nicole emprisonna sa taille entre ses deux mains. « J'ai des dents qui ressemblent à des perles. » Et elle regarda ses dents dans un petit miroir accroché à son chevet. « Quand je veux sourire à quelqu'un et le regarder d'une certaine façon, je vois ce quelqu'un rougir, frissonner, se tordre sous mon regard. Vous êtes mon premier amant, c'est vrai, mais vous n'êtes pas le premier homme avec qui j'ai été coquette. » « Tiens, Gilbert, continua la jeune fille, plus menaçante avec son sourire saccadé qu'elle ne l'était avec ses menaces véhémentes, tu ris, crois-moi, ne me force pas à te faire la guerre, ne me fais pas sortir tout à fait de l'étroit sentier où me retient encore je ne sais quel vague souvenir des conseils de ma mère, je ne sais quelle monotone prescription de mes prières d'enfant. Si une fois je me jette hors de la pudeur, prends garde à toi, Gilbert, car tu auras non seulement à te reprocher les malheurs qui en résulteront pour toi, mais encore ceux qui en résulteront pour les autres. À la bonne heure, dit Gilbert, vous voilà parvenu à une certaine hauteur, Nicole, et je suis convaincu d'une chose, de laquelle, c'est que si je consentais à vous épouser maintenant, eh bien, c'est vous qui refuseriez. Nicole réfléchit, puis les mains crispées, les dents grinçantes. Je crois que tu as raison, Gilbert, dit-elle. Je crois que moi aussi, je commence à gravir cette montagne dont tu me parlais. Je crois que moi aussi, je vois s'élargir mon horizon. Je crois que moi aussi, je suis destiné à devenir quelque chose. Et c'est vraiment trop peu que de devenir la femme d'un savant ou d'un philosophe. Maintenant, regagnez votre échelle, Gilbert, et tâchez de ne pas vous casser le cou, quoi, que je commence à croire que ce serait un grand bonheur pour les autres et peut-être même pour vous. Et la jeune fille, tournant le dos à Gilbert, commença à se déshabiller comme s'il n'était point là. Gilbert demeura un instant immobile, indécis, hésitant, car, excité ainsi par la poésie de la colère et la flamme de la jalousie, Nicole était une ravissante créature. Mais il y avait un dessein bien arrêté dans le cœur de Gilbert, c'était de rompre avec Nicole. Nicole pouvait nuire à la fois à ses amours et à ses ambitions. Il résista. Au bout de quelques secondes, Nicole, n'entendant plus aucun bruit derrière elle, se retourna. La chambre était vide. « Parti, murmura-t-elle, parti. » Elle alla vers la fenêtre, tout était obscur, la lumière était éteinte. « Et mademoiselle, dit Nicole. » La jeune fille alors descendit l'escalier sur la pointe des pieds, s'approcha de la porte de la chambre de sa maîtresse et écouta. « Bon, dit-elle, elle s'est couchée seule et elle dort. À demain. Oh, je saurais bien si elle l'aime, elle. » L'état dans lequel Nicole était rentrée chez elle n'était point le calme qu'elle affectait. La jeune fille, de toute cette rouerie dont elle avait voulu faire preuve, de toute cette fermeté dont elle croyait avoir fait parade, la jeune fille ne possédait réellement qu'une dose de fanfaronnade suffisante pour la rendre dangereuse et la faire paraître corrompue. Nicole était une imagination naturellement déréglée et un esprit perverti par de mauvaises lectures. La combinaison de cet esprit et de cette imagination donnait l'essor à des sens brûlants. Mais ce n'était point une âme sèche, et si son amour-propre, tout-puissant sur elle, parvenait parfois à arrêter les larmes dans ses yeux, ces larmes repoussées violemment retombaient sur son cœur, corrosives comme des gouttes de plomb fondues. Une seule démonstration avait été chez elle significative et réelle, c'était le sourire plein de mépris avec lequel elle avait accueilli les premières insultes de Gilbert. Ce sourire trahissait toutes les blessures de son cœur. Certes, Nicole était une fille sans vertu, sans principe, mais elle avait attaché quelque prix à sa défaite, et lorsqu'elle s'était donnée, comme elle s'était donnée tout entière, elle avait cru faire un présent. L'indifférence et la fatuité de Gilbert l'avilissaient à ses propres yeux. Elle venait d'être rudement châtiée de sa faute, et elle avait cruellement senti la douleur de cette punition. Mais elle se releva sous le fouet et se jura à elle-même qu'elle rendrait à Gilbert, sinon tout le mal, du moins partie du mal qu'il lui avait fait. Jeune, vigoureuse, pleine de sève rustique, douée de cette faculté d'oublier, si précieuse pour quiconque n'aspire qu'à commander à ceux qu'il aime, Nicole put dormir après avoir concentré son petit plan de vengeance avec tous les démons qui lui faisaient l'honneur d'habiter son petit cœur de 17 ans. Au reste, mademoiselle de Tavernay lui paraissait aussi et même plus coupable que Gilbert. Une fille de noblesse, toute roide de préjugés, toute bouffie d'orgueil, qui, au couvent de Nancy, donnait de la troisième personne aux princesses, le vous aux duchesses, le toi aux marquises et rien au-dessous. Une statue froide en apparence, mais sensible sous son écorce de marbre. Cette statue lui paraissait ridicule et mesquine lorsqu'elle se faisait femme pour un pygmalion de village comme Gilbert. Car, il faut le dire, Nicole, avec ce sens exquis dont la nature a doué les femmes, Nicole se sentait inférieure en esprit seulement à Gilbert, mais supérieure pour le reste. Sans cette suprématie de l'esprit que son amant avait acquise sur elle par 5 ou 6 ans de lecture, elle dérogeait, elle, la chambrière, d'un baron ruiné en se donnant à un paysan. Que faisait donc sa maîtresse si sa maîtresse s'était réellement donnée à Gilbert? Nicole réfléchit que raconter ce qu'elle avait cru voir, mais ce qu'elle se figurait avoir vu en réalité à M. de Tavernay, ce serait une faute énorme. d'abord à cause du caractère de monsieur de Tavernay qui en rirait après avoir souffleté et chassé Gilbert, puis à cause du caractère de Gilbert qui y trouverait la vengeance mesquine et méprisable. Mais faire souffrir Gilbert dans André, prendre un droit sur tous deux, les voir pâlir ou rougir sous son regard de chambrière, devenir maîtresse absolue et faire regretter peut-être à Gilbert le temps où la main qu'il baisait n'était dure qu'à la surface, voilà ce qui flatta son imagination et caressa son orgueil, voilà ce qui lui parut réellement avantageux, voilà ce à quoi elle s'arrêta. Puis elle s'endormit. Il faisait jour lorsqu'elle se réveilla, fraîche, légère, l'esprit dispos. Elle donna le temps ordinaire à sa toilette, c'est-à-dire une heure, car pour démêler ses longs cheveux seulement, une main moins habile ou plus scrupuleuse que la sienne eût absorbé le double de temps. Nicole regarda ses yeux dans ce triangle de verre étamé dont nous avons parlé tout à l'heure et qui lui servait de miroir. Ses yeux lui parurent plus beaux que jamais. Elle continua l'examen et passa de ses yeux à sa bouche. Ses lèvres n'avaient point pâli et s'arrondissaient comme une cerise sous l'ombre d'un nez fin et légèrement retroussé. Son cou, qu'elle avait le plus grand soin de dérober aux baisers du soleil, était d'une blancheur de lys, et rien ne pouvait se présenter de plus riche que sa poitrine et de plus insolemment cambrée que sa taille. Se voyant si belle, Nicole pensa qu'elle pourrait facilement inspirer de la jalousie à André. Elle n'était point entièrement corrompue, comme on le voit, puisqu'elle ne songea point à un caprice ou une fantaisie, et que cette idée lui vint que mademoiselle de Tavernay pouvait aimer Gilbert. Ainsi armée au physique et au moral, Nicole ouvrit la porte de la chambre d'André, comme elle était autorisée à le faire par sa maîtresse, quand, à 7 heures, celle-ci n'était point levée. À peine entrée dans la chambre, Nicole s'arrêta. André, pâle et le front couvert d'une sueur dans laquelle nageaient ses beaux cheveux, était étendu sur son lit, respirant avec peine et se tordant parfois dans son lourd sommeil avec une sombre expression de douleur. Ses draps roulés et froissés sous elle n'avaient point recouvert son corps à demi vêtu, et dans un désordre qui révélait ses agitations, elle appuyait une de ses joues sur son bras et serrait son autre main sur sa poitrine marbrée. De temps en temps, sa respiration, suspendue par intervalles, s'échappait comme un râle de douleur, et elle poussait un gémissement inarticulé. Nicole la considéra un moment en silence et secoua la tête, car elle se rendait justice et elle comprenait qu'il n'y avait pas de beauté qui pût lutter avec la beauté d'André. Puis elle alla à la fenêtre et ouvrit le contrevent. Un flot de lumière envahit aussitôt la chambre et fit trembler les paupières violacées de mademoiselle de Tavernay. Elle s'éveilla et, voulant se soulever, elle sentit une lassitude si grande et en même temps une douleur si aiguë qu'elle retomba sur son oreiller en poussant un cri. « Eh, mon Dieu !» dit Nicole, « qu'avez-vous donc, mademoiselle ?»« Est-ce qu'il est tard ?» demanda André en se frottant les yeux. « Très tard, mademoiselle est restée au lit 1 heure de plus que d'habitude. » « Je ne sais ce que j'ai, Nicole, » dit André en regardant autour d'elle pour s'assurer où elle était. « Je me sens comme courbaturée, j'ai la poitrine brisée. » Nicole fixa ses yeux sur elle avant que de répondre. « C'est un commencement de rhume que mademoiselle aura gagné cette nuit, » dit-elle. « Cette nuit ?» répondit André avec surprise. « Oh » fit-elle en remarquant tout le désordre de sa toilette, « je ne me suis donc pas déshabillée, comment cela se fait-il » « Dame, » fit Nicole, « que mademoiselle se rappelle. » « Je ne me rappelle rien, » dit André, prenant son front entre ses mains. « Que m'est-il arrivé? Suis-je folle ?» Et elle se dressa sur son séant, regardant une seconde fois autour d'elle avec un visage presque égaré. Puis, faisant un effort, « Oui, » dit-elle, « je me souviens, hier j'étais si lasse, si épuisée. C'était cet orage, sans doute. » Puis, Nicole lui montra du doigt son lit froissé, mais couvert malgré son désordre. Elle s'arrêta. Elle songeait à cet étranger qui l'avait regardé d'une si singulière façon. Puis, dit Nicole, avec l'apparence de l'intérêt, mademoiselle avait l'air de se souvenir. Puis, reprit André, je me suis endormie sur le tabouret de mon clavecin. À partir de ce moment, je ne me souviens plus de rien. Je serais remontée chez moi, à moitié endormie, et je me serais jetée sur mon lit sans avoir la force de me déshabiller. « Il fallait m'appeler, mademoiselle, » dit Nicole d'un ton doucereux. « Ne suis-je pas la femme de chambre de mademoiselle ?»« Oh, je n'y aurais pas songé, ou vous n'en aurez pas eu la force, » dit André avec une sincère candeur. Hypocrite, murmura Nicole. Puis elle ajouta, mais mademoiselle est restée bien tard au clavecin, alors, car avant que mademoiselle fût rentrée dans sa chambre, ayant entendu du bruit en bas, je suis descendue. Ici, Nicole s'arrêta, espérant surprendre quelque mouvement d'André, un signe, une rougeur, mais celle-ci resta calme, et l'on pouvait voir en quelque sorte jusqu'à son âme par le limpide miroir de son visage. « Je suis descendu, » répéta Nicole. « Eh bien, » demanda André, « eh bien, mademoiselle n'était pas à son clavecin. » André releva la tête, mais il était impossible de lire autre chose que de l'étonnement dans ses beaux yeux. « Voilà qui est étrange, » dit-elle. « Ah, c'est comme cela. Tu dis que je n'étais point au salon, je n'en ai pas bougé. »« Mademoiselle m'excusera, » dit Nicole. « Où étais-je alors, donc ?»« Madame doit savoir mieux que moi, » dit Nicole en haussant les épaules. « Je crois que tu te trompes, Nicole, » dit André avec la plus grande douceur. « Je n'ai point quitté mon tabouret. Il me semble seulement me rappeler avoir eu froid, avoir éprouvé des lourdeurs, une grande difficulté de marcher. » « Ah, » dit Nicole en ricanant, « quand j'ai vu mademoiselle, elle marchait cependant bien. »« Tu m'as vu ?»« Oui, sans doute. »« Cependant, tout à l'heure, tu disais que je n'étais point au salon. »« C'est que ce n'était point au salon que j'ai vu mademoiselle. »« Où était-ce donc ?»« Dans le vestibule, près de l'escalier. »« Moi ?» fit André. « Mademoiselle elle-même, je connais bien mademoiselle, peut-être, » fit Nicole avec un rire qui affectait la bonhomie. « Je suis sûr, cependant, de n'avoir pas bougé du salon, » reprit André en cherchant avec naïveté dans ses souvenirs. « Et moi, » dit Nicole, « je suis sûr d'avoir vu mademoiselle dans le vestibule. J'ai même pensé, » ajouta-t-elle en redoublant d'attention, « que mademoiselle revenait de se promener au jardin. Il faisait beau hier dans la nuit après l'orage. C'est agréable de se promener la nuit, l'air est plus frais, les fleurs sentent meilleures, n'est-ce pas, mademoiselle ?» « Tu sais bien que je n'oserais pas me promener la nuit, » dit André en souriant, « je suis trop heureuse. »« On peut se promener avec quelqu'un, » répliqua Nicole, « et alors on n'a pas peur. »« Avec qui veux-tu que je me promène ?» dit André, qui était loin de voir un interrogatoire dans toutes les questions de sa chambrière. Nicole ne jugea point à propos de pousser plus loin l'investigation. Ce sang-froid, qui lui paraissait le comble de la dissimulation, lui faisait peur. Aussi jugea-t-elle prudent de donner un autre tour à la conversation. Mademoiselle a dit qu'elle souffrait tout à l'heure. « Oui, en effet, je souffre beaucoup, » répondit André. « Je suis abattu, fatigué, et cela sans aucune raison. Je n'ai fait hier au soir que ce que je fais tous les jours. Si j'allais être malade... Oh, mademoiselle, on a quelquefois des chagrins. » « Bien, » répliqua André. « Eh bien, les chagrins produisent le même effet que la fatigue, je sais cela, moi. » « Bon, est-ce que tu as des chagrins, toi, Nicole ?» Ces mots furent dits avec une espèce de négligence dédaigneuse qui donna à Nicole le courage d'entamer sa réserve. « Mais oui, mademoiselle, » répliqua-t-elle en baissant les yeux, « oui, j'ai des chagrins. » André descendit nonchalamment de son lit et, tout en se déshabillant pour se rhabiller, « Conte-moi cela, » dit-elle. « Eh bien, je venais justement auprès de mademoiselle pour lui dire... » Elle s'arrêta. « Pour lui dire quoi, bon Dieu, comme tu as l'air tout effaré, Nicole ?»« J'ai l'air effaré, comme mademoiselle a l'air fatiguée. Sans doute souffrons-nous, toutes deux. » Le « nous » déplut à André, qui fronça le sourcil et fit entendre cette exclamation. « Ah !» Mais Nicole s'étonna peu de l'exclamation, quoique l'intonation avec laquelle elle avait été faite eût dû lui donner à réfléchir. « Puisque mademoiselle le veut bien, je commence, » dit-elle. « Voyons, » répondit André, « j'ai envie de me marier, mademoiselle, » continua Nicole. « Bah, » fit André, « tu penses cela, et tu n'as encore que 17 ans. »« Mademoiselle n'en a que 16. »« Eh bien, quoique mademoiselle n'en ait que 16, ne songe-t-elle pas à se marier, quelquefois ?»« En quoi voyez-vous cela ?» demanda sévèrement André. Nicole ouvrit la bouche pour dire une impertinence, mais elle connaissait André et savait que ce serait couper court à l'explication, laquelle n'était point encore assez avancée. Elle se ravisa donc. « Au fait, je ne puis savoir ce que pense mademoiselle. Je suis une paysanne et je vais selon la nature, moi. » « Voilà un singulier mot. Comment, n'est-il pas naturel d'aimer quelqu'un et de s'en faire aimer ?»« Oh, c'est possible. Après, eh bien, j'aime quelqu'un. Et ce quelqu'un vous aime ?» « Je le crois, mademoiselle. Nicole comprit que le doute était trop pâle et que, dans une occasion pareille, il était besoin de l'affirmative. C'est-à-dire que j'en suis sûre, ajouta-t-elle. Ah, très bien, mademoiselle occupe son temps à taverner, à ce que je vois. Il faut bien songer à l'avenir. Vous qui êtes une demoiselle, vous aurez sans doute une fortune de quelques parents riches. Moi, je n'ai même pas de parents, je n'aurai que ce que je trouverai. Comme tout cela paraissait assez simple à André, elle oublia peu à peu le ton avec lequel avaient été prononcées les paroles qu'elle avait trouvées inconvenantes, et sa bonté naturelle ayant pris le dessus. « Au fait, dit-elle, qui veux-tu épouser ?»« Oh, quelqu'un que mademoiselle connaît, dit Nicole en attachant ses beaux yeux sur ceux d'André. « Je connais ?»« Parfaitement. »« Qui est-ce? Tu me fais bien languir, voyons. »« J'ai peur que mon choix ne déplaise à mademoiselle. »« À moi ?» Oui, tu le juges donc toi-même peu convenable. Je ne dis pas cela. Eh bien alors, dis sans crainte, il est du devoir des maîtres de s'intéresser à ceux de leurs gens qui les servent bien. Je suis contente de toi. Mademoiselle est bien bonne. Dis donc vite, et achève de me lasser. Nicole rassembla toutes ses forces et toute sa pénétration. Eh bien, c'est Gilbert, dit-elle. Au grand étonnement de Nicole, André ne sourcilla pas. Gilbert, le petit Gilbert, le fils de ma nourrice? Lui-même, mademoiselle. Comment, c'est ce garçon-là que tu veux épouser? Oui, mademoiselle, c'est lui. Et il t'aime? Nicole se crut arrivée au moment décisif. Il me l'a dit 20 fois, répondit-elle. Eh bien, épouse-le, dit tranquillement André. Je n'y vois aucun obstacle. Tu n'as plus de parents, il est orphelin. Vous êtes chacun maître de votre sort. Sans doute, balbutia Nicole, stupéfaite de voir l'événement succéder d'une façon si peu en rapport avec ses prévisions. Quoi, mademoiselle permet? Tout à fait, seulement vous êtes bien jeunes tous deux. Oh, nous aurons à vivre ensemble un peu plus longtemps. Vous n'êtes riches ni l'un ni l'autre. Nous travaillerons. Et à quoi travaillera-t-il, lui qui n'est bon à rien? Pour le coup, Nicole n'y tint plus, tant de dissimulation l'avait épuisée. « Mademoiselle me permettra de lui dire qu'elle traite bien mal ce pauvre Gilbert, répondit-elle. « Dame, dit André, je le traite comme il le mérite, c'est un paresseux. »« Oh, mademoiselle, il lit toujours et ne demande qu'à s'instruire. »« Rempli de mauvaise volonté, continua André. »« Pas pour mademoiselle, toujours, répliqua Nicole. »« Comment cela ?»« Mademoiselle le sait mieux que personne, elle qui lui commande de chasser pour la table. »« Moi ? Et qui lui fait faire quelquefois 10 lieues avant qu'il trouve un gibier ?» Ma foi, j'avoue que je n'y ai jamais fait la moindre attention. Au gibier, dit Nicole en ricanant. André eût ri peut-être de cette saillie et n'eût pas deviné tout le fiel contenu dans les sarcasmes de la chambrière si elle eût été dans sa disposition ordinaire d'esprit. Mais ses nerfs tressaillaient comme les cordes d'un instrument qu'on a fatigué outre mesure. Des frissonnements nerveux précédaient chaque acte de sa volonté, chaque mouvement de son corps. Le moindre mouvement d'esprit lui était une difficulté qu'il fallait vaincre. En style de nos jours, nous dirions qu'elle était agacée. Mot heureux, conquête de la philologie, qui rappelle cet état de frisson révoltant où nous jette la succion d'un fruit âpre ou le contact de certains corps raboteux. « Que veut dire cet esprit ?» demanda André, se ranimant tout à coup et prenant avec l'impatience toute la perspicacité que sa mollesse l'empêchait d'avoir depuis le commencement de la scène. « Je n'ai pas d'esprit, mademoiselle, dit Nicole. L'esprit est un don pour les grandes dames. Je suis une pauvre fille et dis tout bonnement ce qui est. Mais qu'est-ce qui est, voyons ? Mademoiselle calomnie Gilbert, qui est plein d'attention pour elle, voilà ce qui est. » Il ne fait que son devoir en qualité de domestique. Après, mais Gilbert n'est pas domestique, mademoiselle, on ne le paye pas. Il est le fils de nos anciens métayers, on le nourrit, on le loge, il ne fait rien en échange de la nourriture et du logement qu'on lui donne. Tant pis pour lui, car il les vole, mais où voulez-vous en venir et pourquoi défendre si chaudement ce garçon que l'on n'attaque pas ? « Oh, je sais bien que mademoiselle ne l'attaque pas, dit Nicole avec un sourire tout hérissé d'épines. Au contraire !» Voilà encore des paroles que je ne comprends pas. Parce que mademoiselle ne veut pas les comprendre, sans doute. Assez, mademoiselle, dit André sévèrement, expliquez-moi à l'instant même ce que vous voulez dire. Mademoiselle le sait certainement mieux que moi ce que je veux dire. Non, je ne sais rien, et surtout, je ne devine rien, car je n'ai pas le temps de deviner les énigmes que vous me posez. Vous me demandez mon consentement à votre mariage, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle, et je prie mademoiselle de ne pas m'en vouloir si Gilbert m'aime. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi que Gilbert vous aime ou ne vous aime pas? Tenez, en vérité, vous me fatiguez, mademoiselle. Nicole se haussa sur ses petits pieds comme un jeune coq sur ses ergots. La colère, si longtemps contenue en elle, se fit jour enfin. Après cela, dit-elle, mademoiselle a peut-être déjà dit la même chose à Gilbert. Mais est-ce que je parle à votre Gilbert? Laissez-moi en paix, mademoiselle, vous êtes folle. Si mademoiselle ne lui parle pas ou ne lui parle plus, je ne pense pas qu'il y ait fort longtemps. André s'avança vers Nicole, qu'elle couvrit tout entière d'un admirable regard de dédain. « Vous tournez depuis une heure autour de quelque impertinence. Finissez-en, je le veux. »« Mais, » fit Nicole un peu émue, « vous dites que j'ai parlé à Gilbert ?»« Oui, mademoiselle, je le dis. » Une pensée qu'elle avait longtemps regardée comme impossible vint à l'esprit d'André. « Mais cette malheureuse fait de la jalousie, Dieu me pardonne » s'écria-t-elle en éclatant de rire. « Rassure-toi, ma pauvre Leguet, je ne le regarde pas, ton Gilbert, et je ne saurais même pas dire de quelle couleur sont ses yeux. » Et André se sentait toute prête à pardonner ce qui, selon elle, n'était plus une impertinence mais une folie. Ce n'était point le comte de Nicole, c'était elle qui se regardait comme l'offensée et elle ne voulait point de pardon. « Je le crois, » répliqua-t-elle, « et ce n'est pas le moyen de le savoir que de regarder la nuit. » Plaît-il, fit André, qui commençait à comprendre, mais qui ne pouvait croire encore, « je dis que si mademoiselle ne parle à Gilbert que la nuit, comme elle l'a fait hier, ce n'est pas le moyen de connaître bien exactement les détails de son visage. »« Si vous ne vous expliquez pas sur le champ, prenez garde, » fit André fort pâle. « Oh, ce sera bien aisé, mademoiselle, » dit Nicole, abandonnant tout son plan de prudence. « J'ai vu cette nuit. Taisez-vous, on me parle d'en bas, » dit André. Effectivement, une voix criait du parterre, « André, André !»« C'est monsieur votre père, mademoiselle, » dit Nicole, « avec l'étranger qui a passé la nuit ici. »« Descendez, dites que je ne puis répondre, dites que je souffre, que j'ai une courbature, et revenez que je finisse comme il convient cet étrange débat. »« André !» s'écria de nouveau le baron, « c'est monsieur de Balsamo qui veut simplement vous faire son compliment du matin. »« Allez-vous, dis-je, » répéta André en montrant la porte à Nicole avec un geste de reine. Nicole obéit, comme on obéissait à André quand elle l'ordonnait, sans répliquer, sans sourciller. Mais lorsque Nicole fut partie, André éprouva quelque chose d'étrange. Si bien résolue qu'elle fut à ne pas se montrer, elle se sentit comme entraînée par une puissance supérieure et irrésistible vers la fenêtre laissée entr'ouverte par le guet. Elle vit alors Balsamo, qui la saluait profondément en fixant ses yeux sur elle. Elle chancela et se retint au volet pour ne pas perdre l'équilibre. « Bonjour, monsieur, » répondit-elle à son tour. Elle prononça ces deux mots juste au moment où Nicole, qui venait prévenir le baron que sa fille ne répondait point, restait stupéfaite et la bouche béante, sans rien comprendre à cette capricieuse contradiction. Presque aussitôt, André, abandonné de toutes ses forces, tomba sur un fauteuil. Balsamo la regardait toujours.